Deux savants américains se sont égarés au cœur du temps, dans le labyrinthe des époques passées et futures, au cours des premiers essais ultra secrets d'un prodigieux dispositif, le chronogyre. Tony Newman et Doug Phillips sont lancés dans une aventure fantastique, quelque part dans le domaine mystérieux du temps.
Le chronogyre primitif s'est posé sur le mois de septembre 1976.
TF1 20h avec Roger Giquel. Raymond Barre, en première ligne, le Premier ministre présente son programme dans un mois devant l'Assemblée nationale. L'impôt sécheresse, unanimité pour la solidarité, mais désaccord pour la formule proposée. La Soufrière, une équipe de TF1 dans les laboratoires qui auscultent le volcan.
Bonsoir.
Chaussures de sport et de loisirs pour les jeunes, Aigle.
Rocket Cottage est le 9e album studio de Still Icepan. Sorti chez Chrysalis, produit par Mike Batt, le label espère consolider le succès populaire et commercial du groupe, dont le précédent album, All Around My Hat, et sa chanson-titre ont atteint respectivement les 10 et 5e places au Royaume. C'est peut-être l'album le plus influencé par le rock du groupe, avec des guitares très proéminentes et une solide section rythmique. D'où un certain manque de subtilité, qui désarçonne nombre de fans. De fait, sortir 9 albums en seulement 5 ans révèle un épuisement créatif évident. D'autant que Chrysalis a fait énormément pression sur les auteurs pour obtenir des titres à fort potentiel commercial en échange de promesses de liberté artistique jamais tenues. Rocket Cottage va aussi être victime d'un mauvais timing. L'explosion soudaine de la scène punk britannique bouleversant les goûts du public et sonnant le glas de genres autrefois populaires comme le folk rock et le progressif. Hier favori des critiques, Still Icepan, ou Yes, se retrouve rapidement ridiculisé, labellisé dinosaure. Rocket Cottage ne va pas rentrer dans le top 40, précipitant les départs de Peter Knight et de Bob Johnson.
The streets are paved with gold.
Pékin, en émoi encore une fois ce matin. Quand ça bouge à Pékin, ça se voit tout de suite. Mais les observateurs étrangers qui ont de l'expérience ne comprennent pas toujours pourquoi ça bouge. Ainsi, ce matin, un journaliste australien constatant les préparatifs d'une grande cérémonie officielle en a déduit que le président Mao Tse-tung aurait été transféré hors de la capitale en prévision de son retrait définitif du pouvoir. De fait, Mao avait déjà quitté Pékin il y a quelque temps, il était revenu d'ailleurs, il avait quitté Pékin pour raison de sécurité au moment des tremblements de terre. Et puis, on a fini par y voir plus clair ce matin. On a vu qu'il s'agissait de tout autre chose. Si la gare de Pékin a été bouclée par d'importantes forces de sécurité, par des soldats de l'armée populaire, des policiers en uniforme, des miliciens, si les forces de l'ordre barraient également l'accès au grand palais du peuple de la place de la paix céleste, et puis aussi les rues avoisinantes, c'était pour célébrer le retour de 3000 personnes qui venaient de participer pendant un mois aux opérations de secours dans la ville de Tangshan, la cité industrielle la plus gravement touchée par le séisme du 28 juillet.
Originaire de Ladbroke Grove, à l'ouest de Londres, Aswad, formé en 1974 par le trio Dan Ford, chant et guitare rythmique, Angus Drummy Zeb Gay, chant et batterie, et Tommy Gad Robinson à la basse, publie sur Mango son premier LP éponyme, mélange de reggae roots et de jazz. Aswad restera toujours dans l'ombre de Steel Pulse, même si le groupe constitue l'un des meilleurs représentants du reggae hors de la Jamaïque.
I rebel, I rebel, I rebel, I got it.
On est en septembre 1976.
L'un des événements de la rentrée cinématographique, c'est l'apparition sur l'écran d'un homme que l'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans la peau d'un comédien. Jean-Michel Follon, dessinateur des génériques d'Antenne 2 et du journal notamment, il tient la vedette d'un film, Un homme comme moi ne devrait jamais mourir. Pour lui, c'est une expérience intéressante, certes, mais risquée.
La gloire à travers ses dessins, un pas vers le cinéma à travers le dessin animé. Et puis, comme si l'instant que représente une image figée ne lui suffisait plus, Jean-Michel Follon s'attaque au mouvement et au son. Le cinéma pour Follon, cela a été entre autres Lily aime moi et puis aujourd'hui, Un type comme moi ne devrait jamais mourir, deux films où il est comédien et deux films tournés avec Michel Vianney. Mode d'expression absolue pour la génération actuelle, Follon dévie de sa trajectoire, mais depuis longtemps, cette idée de cinéma le poursuit.
Réalisant que sa vie n'a aucun sens, Jean-Michel Follon, PDG d'une société florissante, se réfugie dans sa voiture et s'éloigne d'un monde qu'il refuse. Un type comme moi ne devrait jamais mourir, c'est un film de Michel Vianney, avec Francine Rassette et Bernard Fresson. Musique de Mort Schumann. Macon, Georgie, arrive une réponse à Sly and the Family Stone. Mother's Finest. En activité depuis le début des années 70 sur le rude circuit des bars et des clubs du sud-est américain. Déjà responsable d'un LP passé inaperçu pour RCA en 72, ils ont été récupérés par Tom Verman, producteur maison chez Epic. Mother's Finest propose une combinaison explosive de funk urbain et de hard rock. Particulièrement féroce en public, une sorte de chaînon manquant entre Sly et Ted Nugent. Groupe multiracial, Mother's Finest combine également vocaux masculins et féminins avec Joyce Baby Kennedy, comparé aussi bien à Tina Turner qu'à Chaka Khan, et son mari Glenn Murdoch. Malgré la qualité de ses instrumentistes et de ses compos, le groupe ne réussira jamais à décrocher plus qu'un succès d'estime. Probablement parce que l'époque n'est pas encore prête pour leur style, plus tard, bien plus tard, qualifié de fusion.
de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Douce France, cher pays de mon enfance.
On est en 1976, au mois de septembre.
Pas d'emprunt, mais bien un impôt sécheresse, confirme Christian Bonnet. Les pompistes hostiles à une nouvelle augmentation de l'essence. Accueil triomphal de Pékin aux sauveteurs du tremblement de terre de Tangshan. Boeing crée un nouvel avion pour concurrencer le Super Mercure. Greffe d'un bras en Meurthe-et-Moselle, opération réussie.
La dernière sensation londonienne est en goguette au bois de Vincennes. Le vendredi 3 septembre, au Chalet du Lac, les Sex Pistols donnent leur seul concert parisien.
Chez Gillette, deux lames, c'est mieux qu'une. Gillette, rasoir jetable à deux lames.
Deux ans après le succès d'estime du premier LP sans titre, identifié plus tard comme J'ai 10 ans, le tandem Souchon-Woolsey se prépare à sortir un second album. Avec en prémisse un single qui va affermir l'engouement populaire pour le chanteur mal dans sa peau. La face A, Bidon, servira également de titre à l'album.
J'étais James Dean, américain d'origine, le fils de Buffalo Bill à leur admiration. Faut dire que j'avais la chemise à carreaux, la guitare derrière dans le dos pour faire le cow-boy très beau, mes compositions. Elle me parlait anglais tout le temps, je lui répondais de trois mots bidons, des trucs entendus dans des chansons, consternation. Elle croyait que j'étais coureur, que j'arrivais des 24 heures avec mon casque en couleur à leur admiration. Je lui disais drapeau à damier, dérapage bien contrôlé, admirateur fasciné, télévision. Elle me dit partons à la mer, dans ton bolide fendons l'air. Elle passe par le 80 m'attraction, consternation. Mal dans ma peau, en coureur très beau, un dingue, just go with ma pince à vélo. J'suis bidon, j'suis bidon, j'suis bien mec à frime, bourré d'aspirine, un dingue, just go with ma pince à vélo. J'suis bidon, j'suis bidon. Elle croyait que j'étais chanteur, incognito. Voyageur, tourner sur nos filles en pleurs, admiration. Faut dire que j'avais des talons aiguilles, le manteau de lapin d'une fille, des micro-bracelets aux chevilles, exhibition. Elle me dit chante-moi une chanson, j'ai avalé deux, trois maxitons, puis j'ai bousillé satisfaction, consternation. J'suis mal dans ma peau, en chanteur très beau, and I just go with ma pince à vélo. J'suis bidon, j'suis bidon, j'suis qu'un mec à frire.
TF1 20h avec Roger Gicquel. Raymond Barre à la télévision, ouverture du dialogue social et confirmation de l'impôt. Georges Séguy propose un front syndical contre cet impôt sur la sécheresse, refus de la CFDT et de Force ouvrière. Affaire d'assaut, l'extravagante disparition d'un comptable au-dessus de tout soupçon. Viking 2, atterrissage dans quelques heures.
Bonsoir.
Sur un matelas épais d'un multispire, on peut vivre sa nuit sans réveiller l'autre. Ou presque.
À l'automne 75, les Miracles se renouaient avec le méga succès grâce au LP City of Angels. Mais de plus en plus en froid avec la nouvelle orientation de la Tamla, le groupe confie la réalisation de The Power of Music à Warren Pittmore, certes membre fondateur du groupe, mais qui va se révéler incapable de réitérer le coup de maître de l'année précédente. À la différence de City of Angels, album concept sur les pratiques obscures du showbiz de Los Angeles et de Hollywood, The Power of Music semble quelque peu confus. Il va grimper à la 38e place des charts Rhythm and Blues, mais aucun des singles ne boostera les ventes comme l'avait fait Love Machine un an auparavant.
On est en 76, au mois de septembre.
Le film italien, eh bien, c'est 1900 de Bertolucci. La réussite est telle, Claude Brovelli, que tous ceux qui ont admiré la première partie ont, je crois, envie de voir la suite rapidement.
Oui, c'est sûr, on a envie de voir la deuxième partie de 1900, le film de Bertolucci, dont la première partie est à l'affiche depuis cette semaine. Il faudra pour cela attendre le début du mois de novembre. 1900, dont on entend la musique en fond, c'est une chronique sociale et politique sur fond de lutte des classes du début de ce siècle à nos jours, d'où le titre. Le propos est tout à fait politique, tout à fait engagé et peut irriter ceux dont l'engagement est opposé. N'empêche que 1900, qui fait penser aux super productions de Hollywood, aussi bien qu'aux grandes fresques du cinéma soviétique, est le grand événement, le premier de cette rentrée cinématographique. 1900, c'est un véritable livre d'histoire audiovisuelle, partial, mais honnête. De plus, ce film dont le tournage avait débuté il y a 2 ans, est arrivé sur les écrans, comme quelques autres films italiens, au moment où la situation politique italienne vire à gauche, prémonition ou influence, allez savoir. Si le propos est tout, il est de plus porté par une réalisation où l'on reconnaît la maîtrise et le talent d'un des meilleurs metteurs en scène contemporains, Bernardo Bertolucci. Certains découvriront aussi, à travers la musique admirable, Ennio Morricone, et oui, c'est lui, n'est pas un compositeur spécialisé seulement dans les musiques de western, fût-elle déjà excellente. Il y a aussi l'interprétation magistrale dans cette première partie des deux jeunes protagonistes de l'histoire, le fils du paysan et le fils du patron. Il y a là de la graine de grands acteurs au milieu d'une distribution parfaitement choisie dans ce film qui a coûté quelques 5 milliards de lire, partagé par 3 grosses maisons, les artistes associés, la Fox et la Paramount. Il est vrai que les deux parties totalisent 5h20 de projection. On peut être effrayé par la durée ou trouver simplement qu'on aurait pu raccourcir ou ici ou là un peu, mais ce serait faire bon marché du talent et du travail de Bertolucci et de son équipe. On peut préférer, à l'époque où nous vivons, qu'un film comme le reste aille vite, sans pour autant vouloir amputer une création artistique accomplie. En voici donc un court extrait qui donne une idée du climat et de la réalisation de ce film, une petite idée seulement de ce grand film.
Sandré! Oh, Sandrone! Guarda chi viene, beh! C'è una guardia, beh!
Fasol, cosa fai, mia dè? Che cosa fiamo, eh?
Sandré, diamogli una lezione! Ranken Zenganel!
Sì, ciappi qui, dai, ciappi!
Sandré, dè chi viene in questi sono capaci adesso, eh?
Uè, che succede qua? Ah, vi abbiamo trovato! Venite con noi, è dentro alla prigione!
Dai, Sandré, addosso!
Mamma mia!
Adesso, basta!
Les 5 Clash investissent la scène de la Roundhouse à Chowd Farm. Et ce sera le dernier concert pour le guitariste Keith Levy.
Yeah. Le DC-9 de la KLM détourné cette nuit est au-dessus de Tel Aviv, l'ultimatum est sur le point d'expirer, les pirates menacent de déclencher une terrible catastrophe. Inquiétude pour Viking 2, les laboratoires biologiques peut-être endommagés, la sonde se serait posée sur un rocher. Championnat du monde de cyclisme à Ostuni en Italie, dans un instant, nos envoyés spéciaux feront le point en direct.
Cria Cuervos, le film de Carlos Saura, est sorti au mois de juin. Et le single extrait du générique de fin, chanté par Jeannette, un titre sorti dans l'indifférence générale 2 ans plus tôt, fait un carton en haut des charts de l'Hexagone depuis le début de l'été.
TF1 20h avec Roger Giquel. Georges Segui, après son entretien avec Raymond Barre, la sécheresse risque de s'installer dans les relations sociales. Péage sur l'autoroute A4, rien n'est encore décidé, affirme Jean-Pierre Fourcade. Sécheresse, chacun fait ses comptes, ce soir, un céréalier. Les écoliers français sont des vernis, ils ont les vacances les plus longues du monde.
Bonsoir.
J'aime sortir, honnête, ambiance, musique. Mais je ne sors pas sans sortir, sinon je m'en sors pas, c'est vrai. Paris, les boîtes, les cinémas, les restaurants. Sortir, le magazine qui vous donne envie de sortir.
Fin mars, Roxy Music a mis un terme à son existence et à sa tournée promo de l'album Siren aux USA. En août est paru le LP posthume Viva, témoignage des derniers concerts du groupe. Désormais en solo, Brian Ferry publie Let's Stick Together, ce troisième album solo du crooner à moustache. Avec tout Roxy, mais désormais réduit comme Chris Spedding et Mel Collins au rang d'employé.
The man's put us together.
dès le mois de septembre 1976.
Après Bergeron et Séguy, Charpentier à Matignon. Les grands dossiers de Raymond Barre, aujourd'hui l'emploi. Georges Séguy et Edmond Maire, la vraie rentrée sociale. Entre Zurich et l'Afrique, Kissinger à Paris. Le MiG-25 au Japon, secrets et problèmes pour l'Occident, c'est le dossier de ce journal.
Stupidity, c'est le premier album live du groupe britannique Dr. Feelgood. Enregistré à Sheffield et à Southend-on-Sea entre le mois de mai et le mois de novembre 1975, Stupidity va se classer à la première place des charts au Royaume-Uni le mois suivant.
Réaliser ces objectifs, nous sommes prêts, même avec ce gouvernement et ce patronat réactionnaire, à engager notre responsabilité, toute notre autorité et à signer tout accord en conséquence. Mais il est vain d'attendre de nous que nous souscrivions à de nouvelles mesures d'austérité dirigées contre les travailleurs, pendant que les gros privilégiés du régime continuent à s'enrichir scandaleusement. Si le gouvernement veut obtenir l'accord de la première centrale syndicale pour combattre l'inflation, il doit s'engager dans une voie différente de celle suivie jusqu'à ce jour, inefficace et dangereuse pour l'économie nationale. Le gouvernement et le CNPF seraient évidemment enchantés d'obtenir l'accord de la CGT. Ils en connaissent la valeur, mais comme je l'ai dit hier, à M. Barre, personne n'a jamais obtenu cet accord gratis. Comme toute chose qui a une valeur importante, pour l'avoir, il faut y mettre le prix. La signature de la CGT, ça se paye.
Grinderswitch, groupe de rock sudiste formé près de Mâcon, en Géorgie, en 1973, bénéficie dès ses débuts d'une réputation flatteuse auprès de ses pairs. Auteur de deux albums pour le label Capricorn au milieu des années 70, ils ne vont jamais atteindre la notoriété de l'Allman Brothers Band ou du Marshall Tucker. Mais au Royaume-Uni, leur instrumental Picking the Blues sera l'indicatif utilisé pendant des années par John Peel sur la BBC.